La profusion d'allumettes intactes, cassées ou brûlées formait une autre énigme mineure, tout comme les deux ou trois toiles de tente et manteaux de fourrure retrouvés avec des déchirures singulières et peu orthodoxes, suggérant des efforts d'adaptation maladroits et inimaginables. La mutilation des cadavres des hommes et des chiens et l'enterrement démentiel des spécimens archéens endommagés étaient parfaitement cohérents avec toute cette folie destructrice. En prévision d'une éventualité comme celle qui se présente aujourd'hui, nous avons soigneusement photographié toutes les preuves de la démence qui s'était abattue sur le camp. Et nous utiliserons ces clichés à l'appui de notre plaidoyer pour l'abandon de l'expédition Starkweather Moor. Notre premier geste après la découverte des corps dans l'abri a été de photographier et d'ouvrir cette rangée de tombes délirantes avec leurs monticules à cinq branches. Nous n'avons pu nous empêcher de remarquer la ressemblance entre ces tertres monstrueux avec leurs groupes de points et les descriptions des stéatites verdâtres par ce malheureux Lake. Et lorsque nous sommes tombés sur ces pierres elles-mêmes, dans le grand tas de minéraux, cette ressemblance nous a frappés par son évidence. Il faut préciser clairement que leur forme rappelait de façon abominable les têtes en forme d'étoiles de mer des entités archéennes, et nous avons convenu que cette similarité avait dû travailler les esprits surmenés de Lake et de ses hommes. Quant à Peabody et à moi-même, notre premier contact avec ces entités ensevelies a été particulièrement pénible et a renvoyé notre imagination à certains répugnants mythes primitifs dont nous avions pu entendre parler. Nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que la simple vue et la présence continuelle de ces choses, combinées à la solitude polaire oppressante et à ces vents démoniaques, devaient avoir contribué à rendre fou Lake et son équipe. Car la folie et la désignation de Gedney, le seul homme à être peut-être encore en vie, comme responsable du carnage, était l'explication que tous avaient spontanément adoptée, du moins oralement, bien que je n'aurais pas la naïveté de nier que chacun d'entre nous avait sans doute au fond de lui des soupçons extravagants que son bon sens l'empêchait de formuler à voix haute. Cet après-midi-là, Sherman, Peabody et MacTaggie ont pris l'avion pour explorer les alentours, scrutant l'horizon avec leurs jumelles, en quête de Gedney et de tout l'équipement disparu. Mais en vain. Ils nous ont rapporté que la chaîne de montagnes s'étendait uniformément à droite comme à gauche, sans que son altitude ou sa structure ne change. Néanmoins, sur certains sommets, les cubes réguliers et les formations en forme de rempart étaient plus évidents, plus audacieux, et présentaient d'indéniables et fantastiques similarités avec les tableaux de Roerich représentant des ruines asiatiques juchées au sommet des collines. La distribution de ces intrigantes bouches de cavernes sur les noirs sommets dénudés semblait à peu près régulière pour autant qu'ils puissent voir. Malgré toutes ces horreurs, il nous restait assez de zèle scientifique et d'esprit d'aventure pour nous demander quel royaume inconnu pouvait s'étendre au-delà de ces mystérieuses montagnes. Comme l'ont dit nos messages soigneusement contrôlés, nous nous sommes reposés à minuit après cette journée de terreur et de stupéfaction, mais non sans avoir préparé un ou plusieurs voyages visant à franchir la crête des montagnes dans un avion allégé, muni de caméras aériennes et d'équipements de géologues. Notre départ était prévu pour le lendemain matin. Nous avons décidé que Danforth et moi tenterions notre chance en premier, et nous nous sommes levés à 7 heures afin de partir tôt. Mais des vents violents, mentionnés dans notre bref bulletin à l'adresse du monde extérieur, nous ont forcés à retarder le décollage jusqu'à 9 heures. J'ai déjà répété l'histoire banale que nous avons racontée aux hommes de notre camp, qui l'ont relayée vers l'extérieur après notre retour 16 heures plus tard. Il est désormais de mon devoir de compléter mon récit en comblant ces bienfaisantes lacunes par des indications sur ce que nous avons réellement vu dans ce monde caché au-delà des montagnes et sur ce qui a fini par pousser Danforth à l'effondrement nerveux. J'aimerais qu'il ajoute un mot sur cette chose qu'il croit être le seul à avoir vue, bien qu'il puisse s'agir d'une illusion provoquée par son état de nerfs et qui a sans doute été pour lui la goutte d'eau qui l'a plongé dans l'état où il est désormais. Mais il ne veut pas en démordre. Tout ce que je peux faire sera de reproduire ces murmures sans suite concernant la vision qu'il a fait hurler comme un damné alors que l'avion s'est lancé à travers le col balayé par les vents après cet autre choc tangible et bien réel que j'ai partagé moi aussi. Ce sera mon mot de la fin. Si mon récit ne démontre pas la survivance d'horreurs issues du passé et ne convainc pas les autres de ne pas s'approcher du cœur de l'Antarctique, ou tout au moins de ne pas fouiller trop profondément sous la surface de ce désert peuplé de secrets interdits et de désolations non humaines, maudits depuis des éons, en ce cas, je décline toute responsabilité pour les terreurs innommables et peut-être incommensurables qui pourront en découler. En étudiant les notes que Peabody avait prises au cours de son vol de l'après-midi et en vérifiant les coordonnées au sextant, Danforth et moi avons calculé que le passage le plus abordable de la chaîne se trouvait légèrement sur notre droite, visible du camp, et devait se trouver à 7 ou 8 000 mètres du niveau de la mer. C'est donc vers ce point que nous nous sommes dirigés aux commandes de notre aéroplane allégé. Le camp lui-même, installé sur des contreforts qui s'élevaient depuis le haut plateau continental, se trouvait à quelque 4000 mètres d'altitude, si bien que la hauteur à atteindre était moins spectaculaire qu'il n'y paraissait. Néanmoins, au cours de notre montée, nous avions une conscience aiguë de la raréfaction de l'air et du froid intense, car, pour garder un minimum de visibilité, nous étions obligés de laisser ouverts les hublots de la cabine. Bien sûr, nous portions nos fourrures les plus épaisses. Au fur et à mesure que nous approchions de ces sommets sombres, sinistres, au-dessus des neiges striées de crevasses et des glaciers, nous avons remarqué un nombre croissant de ces formations étrangement régulières accrochées aux pentes. Et nous avons une fois de plus pensé aux étranges tableaux d'inspiration asiatique de Nicolas Roerich. Les strates de roches anciennes patinées par les vents correspondaient exactement au bulletin de Lake et prouvaient que ces pics neigeux s'élevaient ainsi depuis un temps incroyablement reculé dans l'histoire de la Terre, peut-être plus de 50 millions d'années. Il aurait été vain de chercher à savoir quelle pouvait avoir été leur hauteur d'origine, mais dans cette étrange région, tout indiquait la présence d'obscures influences atmosphériques peu propices au changement et aboutissant à retarder les processus climatiques habituels de désintégration de la pierre. Mais c'est cet enchevêtrement de remparts, de cubes et d'ouvertures de cavernes qui nous a le plus fascinés et troublés. Je les étudiais à la longue vue et prenais des photos aériennes pendant que Danforth pilotait. De temps en temps, je le remplaçais aux commandes, bien que ma connaissance du pilotage soit purement celle d'un amateur, afin de lui permettre de prendre à son tour les jumelles. Il était évident que l'essentiel de cette chaîne se composait de quartzites archéennes de couleur claire, contrairement à toutes les formations visibles sur les vastes zones du plateau, et qu'elles étaient d'une grande et bizarre régularité, bien plus surprenante que tout ce que Lake avait pu suggérer.